s'échapper. Il s'échappe. Une bulle de chuchotement hors du temps pour un chuchotement hors du temps pour toi, pour moi. S'oublier dans les confinements pour mieux s'oublier dans les autres pour mieux revenir à soi.
Coucou. Alors comment ça va aujourd'hui? Est-ce que ces lettres d'amour ont réveillé en vous vos souvenirs? Peut-être que les souvenirs sont pas doux. Peut-être qu'ils sont un peu rugueux ou désagréables, ou peut-être que c'était bon juste de s'y replonger. De s'imaginer à ces époques-là où il y avait toutes ces lettres d'amour. J'avais presque oublié que, il y a quelques années seulement, eh bien les lettres pouvaient mettre des semaines à arriver. Et que du coup, l'attente de la réponse, c'était long. Alors que maintenant, souvent les échanges se font en SMS. C'est quasi immédiat. On prend peut-être plus le temps d'écrire des belles phrases. On écrit un peu n'importe où, debout, dans le métro, à la poste, à droite, à gauche. On se pose plus pour écrire en fait. Aujourd'hui, on va partir dans un autre univers, très différent, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'amour là-dedans et une belle réflexion sur les anciens et leur place dans le monde. Mais avant, on écoute ça.
Les filles qui s'appellent Valérie sont nées sous Georges Pompidou. Leurs parents étaient si sexy, d'ailleurs marron et soupur roux. Elles ont coulé des jours jolis entre la maison et l'école. Elles rêvaient juste d'être Candy à l'heure de la crise du pétrole. Elles étaient belles, le savaient-elles? C'était pas vraiment leur souci. Les filles qui s'appellent Valérie devinrent pour moi les grandes sœurs qui s'affichaient de Platini et à qui le bac faisait peur. Bien sûr j'étais amoureux d'elles et bien sûr elles le voyaient pas. Rêvaient de Tom Cruise dans Cocktail en écoutant Marcia Baella. Elles étaient belles, le savaient-elles? Ça devenait leur grand souci, mais n'altéraient de 68. Les filles qui s'appellent Valérie, aujourd'hui elles ont 40 ans. Elles ont 3 gosses et un mari qui travaille plus mais gagne autant. Elles ont perdu quelques espoirs et ont gagné quelques kilos. Elles aiment en parler le samedi soir avec les copines du boulot. Et elles sont belles, c'est ce qu'on attendait. Tous les matins elles sont soucis pour faire plaisir à leur mari. Doivent être mères et faire carrière. Se prennent à regretter limite les conséquences de 68. Les filles qui s'appellent Valérie un jour auront 80 ans, attendront le dimanche midi pour manger avec leurs enfants. Elles seront un peu fatiguées vu qu'elles n'auront plus de retraite. Elles continueront d'espérer, bien nostalgiques, leurs rêves tout bêtes. Elles seront belles, le sauront-elles? Ça ne sera plus leur souci. Elles n'auront plus qu'une seule envie, fermer leurs ailes sans être celles considérées à la va-vite comme héritières de 68.
Extrait de La grand-mère de Jade de Frédéric Delgelt. Tout de suite, en apprenant la nouvelle, Jade avait décidé d'aller la chercher. Sa grand-mère Jeanne, sa mamoune, avait perdu connaissance. On l'avait trouvée que le lendemain, étendue sur le sol de la cuisine, dans sa ferme savoyarde, où elle vivait seule. Le soir suivant, alors que Jade se préparait pour sortir avec ses amis, le téléphone avait sonné. 23h. Jade avait eu un mouvement de recul. À cette heure, c'était sûrement Julien qui avait le blues à l'âme, des envies de la revoir. Elle hésita, décrocha en soupirant et entendit la voix de son père qui vivait en Polynésie depuis une douzaine d'années. Il lui raconta l'évanouissement de Mamoun et un malaise d'un tout autre genre. Ses sœurs, les tantes de Jade, refusaient d'attendre et de considérer que cette faiblesse n'était que passagère. Cela pouvait se reproduire, et c'était suffisant pour les trois filles de Jeanne qui habitaient à quelques encablures de sa maisonnette sans venir la voir. Elles avaient décidé de brandir la sécurité. Mamoun n'avait pas eu de voix au chapitre, et toute la famille trop éloignée avait été exclue de la décision. Serge, le père de Jade, savait qu'il serait impossible de déraciner sa mère de 80 ans en l'invitant dans ses îles lointaines. De toute façon, personne ne lui avait demandé son avis. L'ordre de placement de Mamoun en maison médicalisée avait été signé et ses sœurs l'avaient juste informé de la situation. « Essaie de savoir ce qui se trame là-bas », avait-il dit à sa fille ce soir-là. « Il paraît que c'est provisoire, mais bon, à son âge... » En écoutant la voix inquiète de son papa, Jeanne s'est demandé pourquoi ses tantes voulaient se débarrasser si vite de leur mère qui s'était toujours occupée de tout le monde, sans même lui donner une chance ou au mieux une aide. Le malaise de Jade grandissait à mesure qu'elle écoutait le récit de ce complot contre Mamoun. L'une des sœurs était médecin. Ainsi, tout devenait simple. Avec un certificat médical, elle pouvait placer Mamoun dans une maison juste parce qu'elle avait manqué une petite marche de sa vie, se disait Jade. Bien sûr que ce serait une folie, mais elle avait décidé de prendre sa voiture dès le lendemain, sans réfléchir, pour répondre à cette indignation qui lui broyait le ventre. Tout au long de la route, elle savait qu'elle se donnerait des arguments pour ou contre, selon le kilométrage qui la séparait de Mamoun. Elle en allait toujours ainsi dans ses décisions prises à l'emporte-pièce. Sur un coup de tête, Jade venait de quitter Julien, celui qu'elle avait cru être l'homme de sa vie pendant 5 ans. Depuis 2 mois, elle était seule dans son appartement. Allait-elle passer ses jours avec une octogénaire? Elle se croyait incapable de vivre avec un homme? Non, c'est parfaitement ridicule et incomparable. Jade savait qu'ensuite viendraient les questions de son double, celle qui lui mettait des bâtons dans les roues, celle qui cédait à ses côtés fonceurs. L'autre, la raisonneuse, lui soutenait des arguments pertinents qui viendraient casser ses emportements. Elle lui dirait par exemple que si elle travaillait toute la journée, elle ne pourrait pas être sûre que tout se passe bien pour Mamoun. Ou encore, si ses tantes avaient raison. Si sa grand-mère avait réellement besoin d'une assistance médicale permanente, elle ne pourrait pas lui payer une infirmière et un garde-malade avec son minable salaire de journaliste pigiste. Mais d'autres questions plus confuses se présentaient. Au fond, qu'est-ce que Jade savait de Mamoun? Pas grand-chose. Elle l'adorait depuis sa tendre enfance, cette grand-mère au parfum de rose ou de violette, suivant les jours et l'humeur. Elle ressemblait à la bonne fée de Cendrillon, avec ses tresses blanches remontées en chignon et ses yeux très clairs. Petite, un peu ronde, Mamoun avait gardé des enfants. Toujours su comment leur parler ou les rejoindre d'une voix douce, sans leur poser les questions habituelles des grandes personnes. « Alors, tu travailles bien à l'école? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grande ?» Avec elle, pas de gouffre entre le monde des petits et celui des trop grands. Elle était maternelle, d'une tendresse enveloppante, et son rire était un chant qui donnait envie de rire avec elle. Jade se souvint que sa grand-mère était fille d'un agriculteur et d'une sage-femme. Mamoun lui avait montré une photo de ses parents le jour de leur mariage, et Jade avait trouvé que, tout en ayant l'air d'avoir 15 ans, ils avaient des visages de vieux. Petite moustache de paysan de début de siècle pour lui, cheveux remontés en chignon pour elle. Et un air grave. À l'époque, on ne souriait pas sur les photos. Leur fille, Jeanne, avait été ouvrière à la chaîne dans sa jeunesse. Mais pourquoi Jeanne avait-elle besoin de se remémorer qui était Mamoun, ou encore Jeanne? Seule devait compter ce désir de l'arracher à son sort. À moins que... Son déménagement en maison de repos était prévu pour samedi. Jade s'était dit qu'elle allait débarquer chez Mamoun le vendredi à midi, le lendemain donc. Cela laissait peu de temps pour réfléchir. Juste après l'appel de son père, Jade voulut réveiller sa grand-mère pour lui souffler au téléphone. « Je viens te chercher !» Comme un secret. Pour qu'elle entende dans cette phrase d'enlèvement la confirmation de ce qu'elle avait déjà deviné. Ses filles lui avaient vendu une période d'essai pour quelques artifices doucereux, pour justifier la mise en paquet de ses affaires préférées. C'était, lui avait-elle dit, une convalescence ? Un déménagement provisoire, auquel Mamoun, fine mouche, avait fait feinte de croire. Mais il y avait urgence, et puisqu'il fallait quitter sa maison, autant que ce soit pour celle de Jade. « Tu vivras un temps à Paris avec moi », allait-elle murmurer, sa petite fille. « Et puis nous verrons ensemble si tu veux rester ou revenir chez toi, et dans quelles conditions ?» Ainsi Jade aurait l'impression de ne rien lui cacher de la gravité de son état, qui avait exigé son placement dans un établissement, tout en partageant avec elle ses interrogations personnelles. Cette transparence et cette franchise joueraient en sa faveur. Mamoun, qui ne voulait plus monter à Paris depuis des années, ne se ferait pas prier. Enfin, Jade l'espérait. Elle était la fille du fils chéri de sa grand-mère. Et vu les circonstances, elle choisirait son camp. Jade savait ce que dirait Mamoun. Ce qui m'ennuie dans ces maisons, elle ne les nommerait pas. C'est qu'elles sont pleines de vieux.
Moi aussi, bien sûr, rajouterait-elle. Je ne suis pas une jeunette. Mais il me semble que de vivre en mélangeant les générations, ça ralentit.
Elle s'arrêterait comme pour réfléchir.
Peut-être même, puis-je te servir à quelque chose ?
Cette dernière phrase, c'était bien son style, mettrait les larmes aux yeux de Jade. Elle imaginait Mamoun, tout en rondeur dans sa robe bleue, cherchant sourcils froncés à quoi pouvait encore bien servir sa simple existence. Comme si elle avait été un objet à mettre au rebut. Et tout cela le plus sérieusement du monde.
Je dis pas que c'est pas marrant de parler de ton Dieu quelque part qui t'attend, pourquoi tu flippes autant? Je dis pas que c'est pas marrant de te voir à 20 ans, vous êtes jeune, vous faites vieux à cause du noir et blanc. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de la guerre, des tickets de rationnement ou des bombardements. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de Mitterrand ou de Michel Drucker, il est tellement charmant. Désolé mais là je vais pas rester longtemps. Tu me connais, je suis comme ça, je passe en coup de vent. Excuse-moi mais là je dois rentrer maintenant. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de grand-père, de son tempérament et de son enterrement. Je dis pas que c'est pas marrant de parler du cancer, de plaindre les mourants, de compter les survivants. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de Poulidor, des frères Jacques, d'Yves Montand ou de Marcel Cerdan. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de la mort, de penser aux absents, se souvenir d'antan. Désolé mais là je vais pas rester longtemps. Tu me connais, je suis comme ça, je passe en coup de vent. Excuse-moi mais là je dois rentrer maintenant. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de l'arthrose. Et même si tout fout le camp, pas de fauteuil roulant. Je dis pas que c'est pas marrant de parler du beau temps, pour parler de quelque chose quand c'était mieux avant. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de faits divers, des enlèvements d'enfants, de plaindre les parents. Je dis pas que c'est pas marrant de devenir incontinent comme la reine d'Angleterre ou comme au Vatican. Désolé mais là je vais pas rester longtemps. Tu me connais, je suis comme ça, je passe en coup de vent. Excuse-moi mais là je dois rentrer maintenant. Je dis pas que c'est pas marrant de chanter cette chanson. C'est pas toi qui es dedans, quelques idées seulement. Je dis pas que c'est pas marrant de jouer au petit con qui se moque. Évidemment, tu sais m'aimer tellement. Je dis pas que c'est pas marrant de manquer de courage, de pas te voir plus souvent. Tu sais m'aimer tellement. Je dis pas que c'est pas marrant si j'arrive à ton âge de pouvoir en faire autant. Tu sais m'aimer tellement.
J'ai si peur de ne plus me souvenir et d'être incapable de m'occuper seule de ma petite existence. Jusqu'à aujourd'hui, la vie ne m'a pas tout donné, mais elle m'a accordé l'essentiel, ce que je ne demandais pas. De quoi satisfaire un goût de la découverte que je ne connaissais pas. Certains diraient, j'en suis sûre, ce qui m'arrive aujourd'hui était prévisible. Quand j'étais encore à l'usine, il y avait là une Africaine qui disait à toutes les mères, dors avec tes enfants quand ils sont petits, sinon ils s'occuperont pas de toi quand tu seras vieille. Je n'avais pas encore d'enfants à l'époque. J'ai dû oublier ses conseils. Je n'ai pas assez dormi avec mes filles. Je le découvre aujourd'hui. Je ne leur en veux pas. Je crois même que je les comprends. Que peut-on bien faire de moi? À l'âge que j'ai, je suis un poids et je ne m'en remets pas d'en être arrivée là. Me voilà trop vieille, trop fatiguée et maintenant susceptible d'évanouissement. Alors demain, j'aime cette vue que j'ai de la fenêtre de ma cuisine du jardin. Il n'est plus le même depuis que Jean est mort, mais je ne me lasse pas d'observer les oiseaux tandis que je fais la vaisselle. Nous étions si complémentaires au cœur de notre silence. Il s'occupait de la terre jusqu'à la morte saison. En hiver, je regardais les arbustes nus en buvant mon premier café et j'imaginais les couleurs dont j'allais parer notre jardin au printemps. Chaque matin, la terre noire me soufflait un nouveau spectacle. Tulipes jaunes ou rouges, forsythia, clématite, prime vert. Les couleurs et les formes me jouaient leur spectacle, puis le grand jour pour l'achat des graines qui arrivaient. Quelques semaines plus tard, j'attendais avec impatience que le jardin révélât à Jean les couleurs qui l'avaient emporté. C'était sans compter le vent qui chargeait toujours de mélanger mes plantations. Il créait ainsi des surprises à la floraison. Je pestais pour la forme, mais ça me plaisait bien qu'une brise imprévue rendît à mon jardin sa touche sauvage. Nous sommes au début du printemps. Comme si je savais qu'on allait m'arracher ma maison, je n'ai rien semé cette année. Après la mort de Jean, pourtant, je n'ai pas failli. Chaque mois d'avril, et il en eut seulement trois, notre jardin retrouvait sa splendeur. Il me semblait même rendre un hommage particulier à sa disparition. Comme si la terre appliquait à donner les meilleurs d'elle-même. Les voisines qui passaient chez moi étaient rassurées de trouver la jardinière de toujours. Elles me complimentaient pour ma main verte. Personne ne voyait le message que m'adressait l'absent. Celui de continuer seul à accomplir la beauté de notre jardin. Il y avait tant de complicité dans sa présence. Au fur et à mesure des années, sa bouche était muée par un trait pâle qui racontait les émotions retenues. La mienne, au contraire, avait gardé sa rondeur charnue, entretenue par ces conversations volatiles qui allaient nulle part. La peau des bébés, les grandes embrassades des enfants m'avaient communiqué cette douceur que je sentais s'écraser comme la pulpe d'un fruit sur ma joue rêche. Et sur la joue rêche de cet homme en labeur qui me décrochait des sourires entendus pour saluer mes tendresses quotidiennes. Je crois que je rêvais de lui quand j'ai eu ce malaise qu'on a l'air de me reprocher. Non, ce n'est pas exactement cela. Je venais juste de porter quelques déchets à l'extérieur de la maison. Le froid de cette fin d'hiver était humide et j'avais décidé de me préparer un lait chaud. Ensuite, je suis rentrée dans ma cuisine. Mais je sens que je triche. Ma mémoire invente une suite là où il n'y a que du vide. La réalité, c'est qu'on m'a retrouvée le lendemain au pied du réfrigérateur. J'aimerais bien pouvoir dire que j'ai senti quelque chose. J'ai bien dû m'évanouir autrefois dans des conditions semblables et personne n'en faisait une montagne. Mais je ne dois plus avoir l'âge de l'indulgence. Ni même celui de la pitié. On ne me passera plus rien, c'est ainsi. Pour l'heure, je me réjouis que cet enfant vienne m'enlever. C'est un signe du ciel pour que je continue.
je n'ai pas l'énergie de la révolte. Je ne l'ai jamais eue. C'est certainement pour cette raison que j'ai échappé aux soupçons quand j'étais dans la résistance savoyarde. Les regards des autres glissaient sur moi. J'étais invisible, pas concernée.
J'aimerais bien être un vieux avant 2022. Offrez-moi la retraite. Ça a l'air tellement chouette d'être un vieux. Ça a l'air tellement mieux. Je le vois dans leurs yeux quand ils me regardent passer. Ils ont l'air de penser, mon pauvre, t'es mal barré. Mal barré. Quelle idée d'être né dans les années 1980. Ils me saoulent, ces vieux sont trop cool.
T'as vu leur teint? Leur teint, allez.
J'aimerais bien être un vieux avant 2022. Offrez-moi la retraite. Ça a l'air tellement chouette d'être un vieux. Ils ont tout ce qu'on n'a pas, des maisons, des villas et du pouvoir d'achat. Ils me saoulent, ces vieux sont trop à la cool. Jamais crevé,
jamais.
Font des sports insensés.
Aquabike, jujitsu.
Et même que sous les draps.
Ah non, par contre, c'est terminé sous les draps, mon gars.
Y'a des pilules sympas qui les font décoller.
Ah ouais,
c'est vieux.
Allez, chauffe, mon Jaco, chauffe.
J'aimerais bien être un vieux avant 2017. Offrez-moi la retraite. Ça a l'air tellement chouette d'être un vieux. Être jeune, ça me pèse. 2015, 2016, c'est pas les bonnes années pour faire pousser du blé. J'ai placé mon viager chez un vieux de mon quartier, un peu trop à la cour. Ils me saoulent, ces vieux, ils veulent jamais crever.
Jamais, jamais, jamais.
J'aimerais bien être un vieux avant 2022. Offrez-moi la retraite. Ça a l'air tellement chouette d'être un vieux.
Je suis née vieille et doucement résignée, condamnée à la gentillesse comme à la franchise. Avec ce caractère docile que j'ai toujours eu, je n'éprouve pas de rancœur à l'égard de mes filles. Elles ont bien vu, quand nous avions presque 60 ans, Jean et moi, que nous étions en chemin pour être plus vieux, qu'elles ne le sont aujourd'hui au même âge. Elles veulent refuser le temps qui passe, quitte à me pousser, moi, comme si je lui tenais la main. Ma jolie Denise a refait son nez. Elle a tourné la tête pour fuir mon regard quand je me suis étonnée. Bon, elle pensait que je ne le verrais pas. Comme la fabrication d'un nez par un chirurgien aurait-elle pu abuser une mère, l'auteur de l'original ? Moi qui ai si souvent passé mes doigts sur cet appendice qui lui donnait le profil d'une statue égyptienne. Où j'ai rien dit. Mais elle a perdu cette grâce qui émanait de la gêne qu'elle en avait. Une sorte de timidité d'adolescente qui s'est dissoute par son assurance d'être enfin débarrassée de son handicap. Pourquoi changer de visage? Avant, il me semble qu'on était née jolie fille. Ou joli garçon, ou encore gentil ou courageux. Quand la veillance prenait le pas sur la beauté, elle racontait-elle dans le discours des voisines les imperfections du visage ou du corps? mais au fond, on acceptait assez bien son sort. Laid ou beau, jeune ou vieux, on pouvait en rire, être là sans déranger. Peut-être que ce souvenir de tolérance me compte l'injustice de ma situation que je n'ose dénoncer. Oh, elles ont eu leur vie, hein, et voilà que je cherche encore des excuses. Oh, cette petite qui vient me chercher me montre que mes filles n'ont rien essayé pour me sauver. Elle m'a paru très sûre d'elle au téléphone. Je n'ai pas su comment refuser ce que j'espérais tellement. Qu'une bonne étoile veille sur ma liberté de vieille femme. Elle est curieuse, cette peur que j'ai eue quand Denise, le premier médecin de notre famille, m'a parlé de repos et de situation provisoire. Une peur d'enfant, hein ? Une sorte d'étau m'a contracté l'estomac avec le sentiment d'une impuissance injuste. Avant cela, l'idée que ma vie puisse appartenir à d'autres ne m'avait jamais effleurée.
L'empressement de leur fuite allait donner à cette journée une couleur particulière. Quand Jeanne lui avait préparé les vêtements qui lui étaient indispensables, en laissant le reste, elle avait senti une légère réticence, vite balayée par la nécessité. En quittant sa douce ferme, avant le déménagement prévu pour le lendemain dans la maison de repos, Mamoun avait déclaré la guerre à ses filles. D'autant plus qu'elle n'avait aucune discussion avec elles qui aurait pu leur signifier son désaccord de la décision prise. Sa vie avait été tout le contraire de cette brusque rébellion sans avertissement. Jade avait peur de l'entraîner dans un monde qui n'était pas le sien. Elle n'était sûre de rien. Elle ne connaissait de sa grand-mère qu'un côté raisonnable et tranquille. Mais n'est-ce pas elle qui lui avait dit un jour que tout être recèle d'une part d'insoupçonnable, que tout être est capable de se révéler étrange, voire étranger.
Rien n'est plus fragile que le bonheur sans illusion. Quand il vient par un matin d'avril se poser juste le temps d'une chanson légère et facile, familière et sans prétention. M'a mis comme un rayon de soleil sur le toit de ta maison. Fredonnait sous la tonnelle, sans rime et sans raison, en courant derrière les ailes des papillons. Le petit bonhomme, libre et fier comme un vagabond. Maman ou mamie, est-ce que tu le revois de temps en temps? Celui qui te faisait sourire et rêver au bord de l'eau, toujours à courir devant dès les premiers beaux jours du printemps. Que le bonheur sans illusion. Maman, mamie, c'est pourquoi je te dédie cette chanson. À part toi, personne ne me parle jamais de lui.
maman ou mamie, à part toi qui m'a donné la vie.
Jade pensait à tout, ça, en n'arrêtant pas de lui parler. C'est tes petites laines qui sont posées sur le côté du lit ? Veux-tu que je les mette dans la valise ? Il fait plus humide qu'ici à Paris. Hein. Tu pourrais prendre ta lampe de chevet. Hein. Je sais que t'y tiens beaucoup. Non mais gêne pas, il y a de la place dans ma voiture. Je voudrais que tu te sentes chez toi à la maison. Emporte tout ce que tu aimes. Hein. Craignant qu'elle ne profite d'un silence pour annoncer son désistement, Jade comblait les vides. Mamoun trottinait d'une pièce à l'autre, apportant ses vêtements ou les objets à mettre dans les valises. Elle rassemblait ses affaires, avec la même diligence que si elle avait participé à un jeu pour récupérer des indices en un temps record. Elle sursauta à la sonnerie du téléphone. Jade l'interrogea du regard. Elles ne décrochèrent pas, attendirent en se regardant avec angoisse que la sonnerie cessa. Mamoun profita du silence revenu pour confier à Jade d'une voix coupable qu'elle avait essayé de partir, avant même que celle-ci ne l'appelle pour venir la chercher. Quand sa fille l'avait prévenue de la décision prise avec le médecin de la mettre dans une maison d'Annecy, arborée, confortable et médicalisée, ce serait bien mieux pour elle, hein ?
C'était un peu louche, tu vois, cette façon de me rassurer. Oh, j'ai vite préparé une valise. Je suis sortie par le potillon du fond du jardin, celui qui donne sur le petit cimetière. Oh, je ne savais pas du tout où j'irais. Mais j'ai traversé ce champ de tombe avec l'idée de rejoindre la route abandonnée qui passe derrière le village. J'avançais sur le sentier de pierre avec ma valise roulante et les corbeaux avaient l'air de s'adresser à moi en se moquant. Dans leur croassement, j'entendais la voix des morts.
« Vous emménagez, madame ?
Ne seriez-vous pas un petit peu en avance ? Vous n'auriez pas besoin de votre valise, hein, chez nous. Quand les visiteurs arrivent, ils ont déjà posé leur sac à l'entrée. » Toutes ces stèles sur lesquelles s'alignaient des dates de début et de fin de vie m'ont ragaillardi. Je me suis dit qu'après tout, j'étais encore vivante, hein, et que mes filles n'agissaient que pour mon bien.
Tu as changé d'avis ? Demanda Jade en guise de réponse. Mamoun posa sa Bible sur le dessus de sa valise avant de la fermer. Même si sa tante ne devait venir que le lendemain, Jade voulait prendre la route le plus vite possible. Malgré la fatigue, une fois partie, elle serait vite loin de chez Mamoun. Quitter cette maison les protégerait des éventuelles rencontres pénibles et de ces querelles familiales que Jade ne voulait surtout pas connaître. Mamoun, après avoir embrassé la pièce d'un regard embué, suivit sa petite fille et lui demanda de fermer les volets et la porte pendant qu'assise sur le petit banc, elle avait coutume de se reposer en contemplant ses fleurs. Elle l'attendait. Les premiers kilomètres furent silencieux. Mamoun semblait somnolée. Elle était fatiguée par les événements. En lui jetant des coups d'œil furtifs, Jade se répétait qu'elle avait 80 ans, sans parvenir à le croire. Son âge, c'était comme un discours dans l'amour qui émanait d'elle. Mamoun était éternelle. Elle était ridée, certes, mais elle avait en toute saison son hâle de bonne santé et jamais cet air gris et maladif de certains vieux que Jade croisait dans Paris. Même quand elle était fâchée, ce qui était rare, Jade ne l'avait jamais vue se départir de cette voix douce presque voilée qui la caractérisait. Elle avait une petite pointe d'accent savoyarde qui était plus forte quand elle parlait de sa maison, de son jardin ou de ceux qu'elle aimait.
Tes boucles d'ébène face à l'océan. Contemple la plaine comme effleure le vent sous les perles brunes et les ciels d'ivoire dans les mers, les dunes où l'on vient s'asseoir. On prendra le temps de tout voir, d'aimer chaque instant comme un dernier soir. Je veux mourir vieux dans tes bras de soie sous un ciel plus vieux. Que l'on s'y noie, je n'ai qu'un seul vœu. Avant l'au-delà, c'est ton sel, ton feu, pour brûler ma voix. On dira jamais, on dira toujours, comment j'avanais. On fera l'amour, on brisera les chaînes de nos prisons. étrange de Galice et d'Andalousie se suffire ensemble de délices et de fruits. Se coucher à l'aube, rassasié de la vie, dans le bleu, dans le mauve, de l'éternelle nuit. Oh, je veux mourir vieux, dans tes bras de soie, sous un ciel plus vieux, pour que l'on s'y noie. Je n'ai qu'un seul vœu, avant l'au-delà, c'est ton sel, ton feu, pour brûler ma voix.
Quand Jade se mettait à penser à son âge et quitter ce lien tissé entre elles, alors elle avait peur. Peur de commettre une erreur qui l'emmenait, peur de ne pas pouvoir s'en occuper, peur d'avoir menti en lui proposant de la sauver. Plusieurs fois dans le rétroviseur, elle crut voir la voiture de sa tante, Denise, lancée à leur poursuite. Et si ses tantes décidaient de venir la reprendre? Que dirait-elle et comment les empêcher de l'emmener? Elle avait été jusque-là une nièce sympathique avec laquelle on parlait littérature ou études universitaires. Elle ne savait pas ce que ses tantes penseraient de cette nouvelle version d'elle qui jouait les justiciers et enlevait leur mère. Bien qu'elle soit soutenue par son père, Jade n'avait aucune illusion. La Polynésie était loin. Elle serait seule à assumer les conséquences de son enlèvement. Et il y avait aussi cette histoire de tutelle dont elle n'avait qu'une vague idée. Comment est-ce qu'on mettait quelqu'un sous tutelle? Qui l'examinait pour déclarer qu'il était apte à gérer ses affaires? Ses filles pourraient-elles utiliser ce moyen pour récupérer leur mère? Elle s'en voulait déjà de cette guerre non désirée qui l'obligeait à considérer ses tantes comme des ennemis. Elle avait parcouru une centaine de kilomètres et la fatigue d'avoir fait ce trajet dans la journée lui broyait la nuque. Elle décida de quitter l'autoroute pour trouver un petit hôtel où passer la nuit. Si elle continuait ainsi, elle pourrait s'endormir. Elle se sentait soudain responsable de sa grand-mère et se disait que rien ne serait comme avant, qu'elle n'allait plus mener sa vie avec la même insouciance. Elle ne se sentait plus le droit de se mettre en danger. Jade découvrait à travers l'histoire de Mamoun qu'on pouvait devenir très seul, même si on avait été en couple avec 4 enfants. 6 personnes qui pendant tant d'années vivaient, se croisent, mangeaient ensemble dans une maison bruissante de leur rire. L'histoire de Mamoun lui faisait peur. Jade ne supportait pas l'idée que celle qui avait tant donné d'amour soit laissée à l'abandon. Mais fallait-il pour autant accomplir un acte de sauvetage pour faire mentir les mauvais sentiments? Elle voulait que sa grand-mère ne fût plus esselée, mais pour autant... Était-ce le poids de sa solitude à elle? Si elle arrachait Mamoun à son monde pour la parachuter dans le sien, serait-elle moins seule? Il ne restait qu'une chambre dans la maison d'hôte posée au bord du ruisseau qui était autrefois un moulin, leur expliqua le propriétaire en leur montrant les lieux. Elles avaient chacune un lit dans cette mansarde dont l'unique fenêtre donnait sur une forêt. Jade voyait que Mamoun essayait, malgré sa fatigue, de se maintenir droite.
Tu te souviens que, petite, tu voulais toujours dormir dans ma chambre?
Ouais, elle s'en souvenait. De l'avoir suppliée pour qu'elle la laisse, le temps d'une sieste sur son lit. Enfouir sa tête dans son oreiller, y retrouver son parfum de violette et de rose. Et quand il lui arrivait de passer une nuit dans sa maison de pierre et de bois, Jade se réveillait vers 5h du matin pour venir se blottir contre elle, un peu avant que Mamoun ne se levât. Se glisser dans son lit à la fin de la nuit était le seul moyen pour la petite fille de joindre ses songes à ceux de sa grand-mère tendresse. 7 heures passées tout contre elle étaient peuplées de rêves merveilleux. Comment l'aurait-elle oublié? Pour toute réponse, Jade lui avait déposé un baiser sur le front et l'avait informé qu'à Paris, dans son petit 60 mètres carrés, elle aurait sa chambre et qu'elle ne viendrait pas la déranger tous les jours. « Un matin sur 2 seulement », avait dit Jade, en faisant mine de la supplier. Mamoun avait ri. « Tu verras, ta chambre, elle donne sur l'arrière de l'immeuble. sur des jardinets. J'ai deux balcons, un sur la cuisine et un autre du côté de la salle à manger. Et à deux pas de chez moi, il y a un petit jardin. Un jardin sauvage. C'est celui d'un musée. Jade savait à quel point la nature était importante pour Mamoun, qu'il avait tant de fois emmené dans la montagne. Lui avait dessiné sans hésiter chaque plante pour préciser son usage culinaire et curatif. Sa main verte et son savoir l'avaient transformée en sorcière détentrice de secrets sur la composition des potions magiques qu'elle faisait pousser dans son jardin. Elle regarda Mamoun, qui lui semblait un peu perdu dans cette chambre, pourtant si chaleureuse. « Tu as faim ?»«
J'ai mal dormi. » Je voyais la porte s'ouvrir et Denise surgissait dans notre chambre pour me récupérer. Elle se glissait dans le noir pour ne pas réveiller Jade et elle m'entraînait avec elle. Aucun son ne parvenait à franchir mes lèvres. Quel rêve stupide! Pourquoi est-ce que je me sens coupable à ce point? Ce matin, nous sommes repartis de bonne heure dans la brume et j'ai rien dit de ma nuit à Jade. J'ai refait un somme dans la voiture. Bon, elle va vraiment me prendre pour une marmotte. Nous sommes presque arrivés au cœur de Paris, dans les embouteillages. Jade est concentrée sur sa conduite. Et moi, je me laisse emporter dans mes ruminations de vieille dame.
Tant qu'on ne sait pas qu'on ne sait rien. Tant qu'on est de gentils petits chiens. Petite santé va bien. On n'est pas la queue d'un être humain. Tant qu'on ne sait pas le coup de frein qui vous brûle vif un jour de juin. Tant qu'on ne sait pas que tout s'éteint.
Ce qu'est la fuite et la honte que l'on sait qu'on mérite.
pas vu brûler son nid. En quelques minutes à peine fini. Tant qu'on croit en toutes ces conneries qui finissent toutes par pour la vie.
Elle m'a dit qu'elle vit dans une rue derrière Pigalle et que son quartier est à la fois un village et un petit morceau de grande ville. Oh, je me demande comment c'est possible. Je suis fatiguée et pleine de doutes. Peut-être n'ai-je plus l'âge de ce genre d'équipée. Je crois que je suis encore vivante dans un monde dont je ne fais plus tellement partie. J'appréhende à ranger les quelques effets personnels que nous avons embarqués à la hâte. Comment se fait-il qu'à mon âge, on se fasse une montagne de rien ? On en a quand même pourtant vu d'autres. C'est la première fois que je fuis. Même durant la guerre, j'ai pas été obligée de me cacher ou de quitter mon village. Je passais les messages entre les maquisards dissimulés dans les alpages et les chefs de l'organisation de la résistance d'Annecy. Presque une promenade. Voilà. Je suis incorrigiblement vieille. Je suis repartie dans mes souvenirs. Jade a garé la voiture sur une petite place arborée, un endroit pour les piétons, elle m'a expliqué. Elle s'extrait de son siège et déplie son 1m75. Elle évalue ses chances d'éviter une contravention. Les cloches sonnent comme pour saluer notre arrivée. Elle sourit.
C'est un type du coin qui les a fabriquées. Ce sont celles de Montmartre qu'on entend là. Tu verras, tu seras comme chez toi ici. Même sur ma boîte aux lettres, il y a déjà J. Coudray. Puisque nous avons les mêmes initiales de prénom, il y a déjà ton nom.
Je dis avec fierté que la petite de Montserge est devenue une belle et mince jeune femme. Avec le plaisir d'être enfin arrivée, la fatigue a disparu sur son visage. Privilège de la jeunesse, parce que moi, par contre... Maintenant que je vais vivre avec elle, je vais être confrontée à ce décalage tous les jours. On s'habitue à vivre seul. Quand Jean est mort, je croyais que tout le monde allait s'écrouler. Que je deviendrais visible parce qu'il n'était plus là pour cacher mes erreurs, mes manques. Plus là pour me protéger non plus. Mais rien de tout ça n'est arrivé. J'ai juste découvert que j'avais vieilli. Ma vie avec Jean m'avait caché cette vérité. Je me voyais dans ses yeux qui restaient ceux de notre jeunesse, car moi non plus je ne le voyais pas avancer sur le chemin du temps. Par la même occasion, je me suis mise à observer. Oh, la vieillesse n'intéresse personne. Plus il y a de vieux, plus ils sont jeunes. Je me souviens d'un temps où je pouvais dire les vieux sans avoir la sensation d'avoir commis une bourde. Ou maintenant, on dit plus vieux. On dit troisième âge, comme une quatrième dimension. On dit les octogénaires, les octos, derrière une coquetterie d'une race nouvelle que je trouve lâchement complice avec ses fioritures verbales. Réussir sa vieillesse, c'est trouver une seconde jeunesse, Quel désarmant paradoxe. Rajeunir ou disparaître, voilà le choix. Je ne le veux pas. Les choses sont ainsi. Quand j'étais jeune, les vieux étaient vieux. Et aujourd'hui que je suis vieille, les vieux doivent être des jeunes. Il faut se résoudre à vivre dans un monde dans lequel notre âge est valorisé dans la mesure où nous ne le paraissons pas. Et nous voilà de plus en plus nombreux à nous cacher dans des tranches qui ne sont pas les nôtres. Ça doit être une sorte de guerre des vivants. Quant aux autres, ceux qui ne peuvent pas tricher, on les dissimule comme on peut. Je sais que cette folie, cette fuite m'entraîne dans une dépendance. Et je ne veux en aucun cas peser sur cette petite. Jade a compris mon embarras ce matin à l'hôtel. Elle m'a tout de suite murmuré à l'oreille que « Pour les sous, tu me laisses faire et nous réglerons tout ça à notre arrivée. Nous réglerons nos petits comptes. » Non mais l'incongru de ma situation m'apparaît maintenant en pleine lumière. Je suis partie comme une voleuse. Oh, le courrier ne me suivra pas. Hein. À quoi pense-t-on dans une fuite? Bah, à sauver sa peau. Mais qu'aurais voulu je fuir? L'enfermement ou la vieillesse? Et maintenant, tout ça est bien joli, hein. Mais qu'est-ce que je vais faire dans cette ville? Et dans cette vie de Jade?
S'échapper. S'échapper. Une bulle de chuchotement hors du temps pour toi.
Un chuchotement hors du temps pour toi, pour moi.
S'oublier dans les confinements pour mieux revenir à soi. S'oublier dans les autres pour mieux revenir à soi.
Une grande pensée à tous ceux qui sont tout seuls chez eux et à ceux qui ne peuvent pas aller les voir, leurs petits vieux, leurs anciens, leurs mamies, leurs papis, leurs grands-pères, les granis, les grandes dades, les papis, les mamés, les papés, les mamettes, les mamounettes, les mamounets, enfin tous, peu importe les petits noms qu'on leur donne, à tous ceux qui étaient de la génération juste avant la nôtre ou celle encore avant la nôtre, leurs arrière-grands-parents, à ceux qui sont dans les EHPAD, je sais que certains d'entre vous m'écoutent. Juste avant de vous quitter, je vous laisse en musique, en attendant de vous retrouver demain. Prenez soin de vous.
On a besoin de temps pour décompresser et souffler. Oublier que tous les jours il faut lutter, ne pas couler, au moins flotter, au mieux naviguer. Tenter de garder le cap sans s'avirer, on peut échouer. Et là vaut mieux savoir ramer pour gagner la terre ferme. Attention, une fois qui est un lapin, les chasseurs faut éviter. T'es ambitieux, traîne pas trop devant la télé. Si tu reviens de vacances, c'est que t'es un peu trop bronzé. Oublie pas tes fap avant d'aller te balader, sois pas trop blasé. Allez, seul les stons sont distribués, ça manque jamais de volontaires pour te coller du tartin gommé. Mais faut rêver, y croire et s'accrocher et persister. Se battre et transpirer et cogiter. Déménager, s'activer, respirer un bon coup et puis foncer avec la confiance. Comme allié, on peut faire ce qu'on veut si elle n'est pas au rendez-vous. On se démerde comme on peut, mieux vaut être teigneux. Pas trop rancunier ni nerveux pour ne pas être game over au premier niveau du jeu. Yo Jano, c'est pas le moment de yoyoter, ça vient de commencer. C'est ça aussi d'être né égo et en liberté. S'il y a moyen de bouger, j'en profiterai. Je me disais ça après cette réflexion. Café club, c'est le petit déj des champions. J'ai de l'ambition, mais pas comme Napoléon. Je suis pas un colon, j'écris que des chansons. L'eau, elle s'enfile, le frisson est le plus loin possible. Je veux enjamber l'horizon, mais je suis un peu comme Antoine. Il faut que je fasse un tube avant. Ma mère m'a dit, Anis, tu deviens un peu encombrant. Je lui ai dit, ok, je me tire, mais je me rase la boule avance. Tu m'as dit que la vie valait le coup, alors j'y crois maintenant. Mais j'ai noté dans mes carnets qu'on en bave régulièrement. Comme on a tous des coups de blues de temps en temps, mais c'est normal. C'est la tension qui chute ou la pression qui monte, va savoir, Jano. Mais il faut rêver, y croire et s'accrocher et persister. Se battre et transpirer et cogiter. Déménager, s'activer, respirer un bon coup et puis foncer avec la confiance. Comme allié, on peut faire ce qu'on veut si elle n'est pas au rendez-vous. On se démerde comme on peut, mieux vaut être teigneux. Pas trop rancunier ni nerveux pour ne pas être top budget au premier niveau.